بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما يا كريم ربي زدنا علما يا كريم ربي زدنا علما يا كريم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي شفاء الإسلام Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la possibilité ce soir donc de reprendre le programme concernant la résurrection et la récompense des gens pieux, le jour de Qiyam. Il y a différentes catégories d'êtres humains. Il y a les personnes qui vivent sans qu'ils aient eu la lumière de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont ceux pour lesquels Allah ta'ala n'a pas écrit Al-Iman Billah. Et ces gens-là, même si durant toute leur vie ils font de bonnes actions, s'ils consacrent l'essentiel de leur temps, ils donnent tout leur bien, tout leur argent dans des associations caritatives où ils vont aider les gens, ils font beaucoup d'actions que nous qualifions comme étant des actions vertueuses, mais s'il n'y a pas là, comme il n'y a pas là ilaha illallah de leur cœur, ces gens-là malheureusement le jour de la rétribution ne pourront rien réclamer auprès d'Allah Azza wa Jal. Leurs actions leur aura été profitable dans ce monde. Allah Ta'ala les aura récompensés, les aura accordé certaines choses dans ce monde, mais dans le-delà, cette personne n'aura aucune trace de bonnes actions. Il y a les personnes pour qui Allah Ta'ala a écrit la guidée, soit depuis leur naissance, des gens qui sont nés musulmans, ou alors durant leur vie, Allah Ta'ala a décidé de les retirer de l'obscurité et de les amener vers la lumière. Et puis il y a également ces musulmans qui sont nés avec iman de leur cœur, mais malheureusement, lors de certaines étapes difficiles de leur vie, ils se sont éloignés du dîn, ils se sont éloignés de la religion, donc ils sont restés un petit peu loin des sentiers battus, loin du sirat al-mustaqim, de l'âge de 15 ans jusqu'à 20 ans, 25 ans, parfois plus. Et puis tout d'un coup, Allah Ta'ala écrit la guidée pour eux. Allah Ta'ala décide de les ramener vers le dîn, de les ramener vers lui, et c'est le plus beau cadeau qu'Allah Azza wa Jal peut accorder à un être humain que de le ramener vers lui. Et là, la personne recommence à faire ses salats, à remplacer ce qu'elle a pu manquer comme bonnes actions, et la personne essaie de devenir un homme vertueux. Et parmi ceux qui ont la foi de leur cœur, donc cette deuxième catégorie dont nous faisons partie, il y a des gens qui, comme on l'a dit, ils vont vivre selon leurs envies, selon leurs instincts. Et donc ces gens-là vont cumuler des péchés. Et lorsqu'on les parle de bonnes actions, ils vont fuir. Ils vont fuir. Je discutais avec un médecin il y a deux jours, un spécialiste, un anesthésiste. Je demandais un petit peu comment ça se passe, les études de médecine, et comment sont les musulmans. Bon, il n'y a pas énormément de réunionnais qui font médecine, malheureusement. Je vais demander le cas, je ne vais pas dire nationalité, c'est pas bien. La yasral qawm ou min qawm. Je vais demander à propos de certaines personnes, de certaines îles avoisinantes, que ses frères et sœurs en islam, comment est-ce qu'ils se débrouillent, comment se passe leur intégration à Paris ou à Montpellier, quel que soit l'endroit, lorsqu'ils font médecine. Il me dit que ces personnes-là, ils sont bien, ils sont de la religion pendant les deux années de prépa. Et quand ils gagnent leur concours, ils commencent à monter en grade, ils commencent à réussir, ils commencent vraiment à réussir leurs études de médecine, là, ils retournent leur veste. Je dis, mais ça veut dire quoi, ils retournent leur veste? Ils retournent leur veste, c'est-à-dire ils s'occidentalisent. Ils ont l'impression que pour réussir, pour devenir docteur, il faut, si je ne suis pas blanc, je n'ai pas les yeux bleus, et que je suis noir, ou que je suis bien brun, ou trop bronzé, on ne va pas m'accepter si en plus je porte le nom de Mohamed, Abdallah ou Ibrahim. Il faut que, et en plus si les gens savent que je fais Ramadan, ou que je fais la prière, ou que j'ai, pire encore, que j'ai la barbe, ou que pour le cas d'une femme, que je me couvre correctement. Donc, qu'est-ce qu'il voulait dire par retourner la veste? Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a. C'est des paroles qui me restent encore dans l'esprit. Il me dit que ces gens-là, lorsqu'ils arrivent à la première ou la deuxième année de médecine, lorsqu'ils sont partis, il n'y a plus question de concours ou de réussite ou pas, là, ils sont dans le bon wagon, ben là, ils s'occidentalisent. Ils deviennent plus français que les Français. Ils renient complètement leurs origines musulmanes. Ils oublient complètement la notion de salat, la notion de ramadan, la notion d'appartenance au dîn de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et leur but c'est quoi? C'est de faire tout comme les kuffars. De faire le maximum pour ressembler à ces personnes, d'être bien intégrés. Ils vont dans leur soirée, ils boivent du champagne comme eux, ils mangent dans les mêmes restaurants qu'eux, et ils se marient avec des gens qui n'ont pas iman billahi wa rasuli. Et ils ont l'impression, ils ont la conviction d'avoir réussi. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Comment est-ce que Shaitan peut détourner quelqu'un après 20 ans, 22 ans, 23 années d'éducation que les parents ont donné à cette personne depuis l'enfance jusqu'à l'adolescence, jusqu'à devenir un adulte, et que là, pour ressembler à des occidentaux, pour avoir ce diplôme de médecine, pour être bien vu de la part de ses futurs collègues, pour avoir l'impression qu'il est bien intégré, la personne vend son din. La personne vend l'intégralité, il brade. Même le passeport, il vous prend. Tout. S'il pouvait changer son nom, il pouvait s'appeler Jean-Claude, Michel ou Christophe ou Jean, il l'aurait fait. C'est désolant, ça fait pitié mes chers frères. Ça prouve comment Shaitan, a'oudou billah, quand quelqu'un est éloigné de la communauté musulmane, quand il n'y a pas de rappel, quand il n'y a pas de rattachement avec la masjid, quand il n'y a pas de ibadah, il n'y a pas d'acte d'adoration, surtout c'est ça le plus important, il n'y a pas de ressourcement. On ne renouvelle pas notre iman. On n'a rien qui nous permet de remonter à la surface. Parce que dans la vie que nous vivons au 21e siècle, dans un pays comme la Réunion, et pire encore, ceux qui sont à Paris, à Montpellier, à Bordeaux, peu importe, tout vous attire vers le bas. Ici, comme il dit en créole, le soubat, pour rester dans le dîn. Mais là-bas, c'est sous-marin, complètement. C'est-à-dire, là, c'est de plonger, là, c'est de l'apnée, là. Avec le degré de fitna, avec l'absence de lien avec notre dîn, de lien avec la masjid, de lien avec des ulama, des a'imma, avec l'absence de la famille, l'absence de la non-présence du patriarche, d'un papa, hein, qui donne des ordres, qui impose le respect. Quand le jeune est en freestyle dans ce genre d'endroit, franchement, si Allah n'a pas pitié de la personne, si Allah ne crée pas des situations pour cette personne, pour qu'il reste encadré dans le dîn, on peut craindre le pire. Et le pire, c'est quoi? C'est quand une personne, pour réussir, comme on a dit en introduction, la personne est prête à brader, à vendre sa religion, à renier ses origines. Imaginez quelqu'un qui durant toute sa vie n'a pas iman, et qu'à la fin de sa vie, on explique que tu étais dans la fausseté, maintenant tu meurs, Malik al-Maud reprend ton âme, sache que tu étais dans l'erreur. Comment il aurait rêvé, souhaité, ne serait-ce de faire un sijda devant Allah pour avoir l'espoir qu'Allah accepte ce sijda, pour que le jour de la résurrection, peut-être ce sijda le sauve. Mais il ne peut pas parce qu'il n'avait pas la ilaha illallah, Allah n'avait pas écrit pour lui le iman durant toute sa vie. Maintenant, quelqu'un qui est né dans une famille musulmane, qui a eu l'éducation musulmane, qui a fréquenté les makatib, les madaris, et qui veut réussir, et pour réussir, il brade sa religion, mes chers frères, ça c'est khasara uzma. Ça c'est la plus grande perte. Il n'y a rien de plus catastrophique pour un être humain que celui qui ne comprend pas la valeur de sa foi et qui est prêt à vendre son iman pour avoir le dunya. Wallah musta'an, qu'Allah nous protège. Et malheureusement, le constat est qu'il y a beaucoup de cas. Beaucoup. J'ai parlé de médecine, mais d'une manière générale, quand nos enfants, nos petits-enfants, ça peut être de bonnes familles, ça peut être des jeunes qui ont fréquenté nos madaris, nos masajid, mais arrivés à ces endroits, comme ils n'ont pas la vraie notion de dîn, ils perdent tous leurs repères. Parce que la vraie notion de dîn, c'est quoi? C'est de faire rentrer dans le cœur de l'enfant le tawhid, l'unicité d'Allah. De faire rentrer dans le cœur de l'enfant la présence d'Allah, muraqabatullah. Que ce jeune homme, cette jeune fille, a toujours yaqin, conviction qu'Allah me voit, qu'Allah m'entend, que j'ai été créé pour adorer Allah. J'existe pour Allah. Je n'existe pas pour réussir à la vie, pour avoir un nom. Mon but, c'est pas que quand je meurs, les gens parleront de moi, que c'était quelqu'un de bien, que c'était un grand avocat, c'était un grand juriste, c'était un grand médecin, c'était un grand casseur. Non. Que j'étais là parce que j'ai été créé. Allah a créé, nous a créé pour faire son adoration. Et l'adoration d'Allah, c'est comment? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, jusqu'à ce que l'ange de la mort reprend l'âme. Je dois rester fidèle à mon dîn, rester fidèle à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on dit en introduction qu'il y a des gens qui vivent selon leurs envies, leurs passions. Et qu'il se peut qu'un jour Allah leur accorde la guidée, et il se peut qu'Allah ne leur accorde pas la guidée. Et qu'ils meurent fasiq, fussaq, dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, sallallahu al-afiya. Après, il y a des gens qui durant leur vie, ils obtiennent la guidée. À 35 ans, il y a beaucoup de cas. On avait expliqué il y a un mois, qu'il y a des jeunes qui ont fréquenté, on était, enfin, même génération au lycée, et quand on voyait ce qu'ils faisaient, et quand on voyait qu'est-ce qu'ils étaient devenus après le bac, comment, wallah musta'an, dans quel ahwal. Et puis, nous, on va faire nos études de dîn, alhamdulillah, on revient 10 ans, 12 ans après, on revoit ces mêmes personnes dans la masjid, avec la barbe, avec religieux, avec une femme, inshallah, elle a réussi sa vie de famille avec un enfant. L'enfant, il est à la madrasa, il lit le Coran, le papa, il se fait du souci. On a l'impression que c'était des gens perdus, jamais revient plus. Mais Allah a ramené ce que Allah aime quand le musulman, il fait un effort pour retourner vers Allah. L'histoire L'exemple très connu que le prophète a dit que c'est comme un voyageur, tout le monde connaît, mais on le répète parce que on a besoin de faire rentrer ça dans nos cœurs. Le voyageur qui est sur sa monture, sur son chameau, et qui s'assoit auprès d'un, sous un arbre, qui s'assoupit, et la monture s'enfuit. Et quand la monture s'enfuit, c'est synonyme de mort, parce qu'il est dans le désert. Sur cette monture, il y a à manger, il y a à boire, et ça lui permet d'arriver à l'endroit où il doit aller. À pied, il ne peut pas y arriver. Donc il n'a plus rien à manger, plus rien à boire. Il sait qu'il va mourir dans quelques heures, voire dans un jour, il va mourir de faim, de soif ou déshydraté. La personne est désespérée. Et puis tout d'un coup, lueur d'espoir, il voit la monture de loin qui arrive, qui retourne vers lui. Il est tellement heureux que, comme il dit, il s'enfuit. Il remercie Allah par des paroles qui vont à l'encontre de ce qu'il voulait dire. C'est pas le but du hadith. Ce que je veux dire, c'est que il est tellement heureux. Imaginez la joie de cet homme qui retrouve cette monture. C'est une seconde vie. C'est un second souffle, une seconde naissance. Il dit qu'Allah Ta'ala est plus heureux, plus content que cet homme qui retrouve sa monture lorsque un mu'min, un musulman, s'est éloigné de lui. Et puis un jour, cette personne gagne la hidayah, elle obtient la guidée et elle revient vers Allah. Allah est heureux, Allah est heureux entre guillemets. Allah Ta'ala est satisfait, Allah est content quand quelqu'un revient vers lui. Et puis, on a l'autre catégorie, c'est ceux qui adorent Allah, mashallah, qui depuis leur enfance, ils ont une éducation islamique. Je ne dis pas une éducation stricte, parce qu'il y en a qui ont des éducations strictes, mais tellement strictes, que si tu n'as pas lève namaz, papa il tabasse Ali, passage à tabac. Si papa il sort, il a vu le maman, il n'a pas levé, il tape Ali, il frappe Ali. Ce que l'enfant finit par pratiquer la religion par peur. C'est pas que quand le papa n'a pas enseigné à son enfant que quand tu te prosternes, tu es devant le Seigneur des mondes. Tu es devant celui qui est Mustawa Halal Arsh, qui est établi sur son trône, majestueux. Quelle est la grandeur de son trône? Quelle est la grandeur des créatures qui portent le trône d'Allah? Quelle est la grandeur de la création d'Allah? Quel est le pouvoir d'Allah? Quelles sont les qualités, les sifat, les attributs d'Allah? Comment Allah a créé ce paradis? Comment Allah Ta'ala, il est rempli d'amour pour ses créatures? Il veut nous faire accéder au paradis. Le papa n'a pas enseigné à cet enfant l'amour du dîn et l'amour d'Allah. Il a enseigné la crainte. Donc, on a dit une éducation religieuse. On n'a pas dit une éducation stricte. Parce que cet enfant qui a une éducation stricte, quand il coupe le pont, mais alors il rattrape tout. Si jusqu'à l'âge de 20 ans, 22 ans, il n'a jamais été en boîte, il n'a jamais bu d'alcool, il n'a jamais fumé de zamal, parce que papa était veillali, parce que papa était mettre des espions dans tous les quartiers pour veiller mon garçon, c'est-à-dire il ne s'éloignait pas des péchés par crainte d'Allah, non, par crainte de son père. Il ne faisait pas les bonnes actions par amour pour Allah, non, c'est par crainte de son père, parce qu'il y était obligé, c'était une corvée d'aller à la masjid. Mais quand il coupe les ponts, lorsqu'il va faire médecine celui-là, lorsqu'il va faire quelles que soient les études à l'étranger, c'est là qu'il rattrape tout. Dans l'exemple, tiens, il y a une personne qui m'avait dit une fois qu'il était parti passer un concours en France, quelqu'un qui est un adulte, hein, déjà diplômé, je ne sais pas, un remis à niveau en France, m'a dit qu'une dame lui a dit, bah, écoute, ma fille, elle est dans telle, je ne sais plus quelle ville en France, elle m'a dit, jette un coup d'œil sur ma fille, si tout va bien. Elle a dit, ok, il va à l'adresse que la personne a donnée, des réunionnais. Hein. Elle a dit que quand j'ai vu la fille de cette personne, elle était habillée comme une prostituée. La personne m'a dit, de ses propres mots, cette fille de bonne famille, elle était habillée comme une prostituée avec des vêtements qu'on ne peut pas décrire, que jamais quelqu'un marcherait comme ça, habillé comme ça dans la rue. Ça c'est quelqu'un qui certainement avait une certaine éducation, mais qu'à partir du moment où la personne s'éloigne des parents, et il y a beaucoup de cas comme ça, il n'y a pas la véritable notion d'amour et de crainte d'Allah dans les cœurs. Donc, le cas de figure qu'on vient de citer, pas trop mélangé, celui qui depuis, mashallah, son enfance a une éducation religieuse correcte et que ce jeune homme a grandi avec amour pour Allah et crainte d'Allah. Et mashallah, il vit dans l'obéissance d'Allah jusqu'à sa mort. Alors cette catégorie de personnes, ça c'est la meilleure des catégories, ça c'est les meilleurs des mu'mines. Et ce jeune homme qui depuis son enfance jusqu'à l'adolescence, jusqu'à l'âge adulte, il se marie, il a sa femme, dans la manière qu'il va agir avec ses parents, dans la manière qu'il va agir avec son épouse, dans la manière qu'il va donner l'éducation à ses enfants, dans la manière qu'il va agir avec ses collègues de travail, avec ses voisins, dans son rôle de citoyen, de musulman, c'est quelqu'un qui met en pratique l'ordre d'Allah et l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce jeune homme, cette personne qui a grandi de l'obéissance d'Allah, on a grand espoir qu'il fera partie de ces sept catégories de personnes qui, le jour de la résurrection, seront sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire l'endroit le plus honorifique pour un être humain, le jour de la résurrection, c'est d'être sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'on avait commencé le hadith, c'est en rapport avec la résurrection. Hadith qu'on avait expliqué une partie l'autre fois, hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu, anin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam a qal, sab'a, sept catégories de personnes, yudhulluhumullahu ta'ala fi dhulli, cette personne, cette catégorie de personnes auront l'honneur d'être sous l'ombre du trône d'Allah, yawma la dhilla illa dhilluh. Le jour, il n'y aura pas d'autre ombre que l'ombre du trône d'Allah. Imamun adil. Ça, on avait expliqué la dernière fois. Un roi, un souverain juste. C'est-à-dire, contrairement à tout ce que nous voyons, Allah musta'an, dans beaucoup, pour ne pas dire tout, on ne va pas généraliser, dans beaucoup de pays musulmans, bien sûr, où il y a des gens qui ont, soi-disant, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah de leur cœur, qui ont eu cette amana, ce dépôt de la part d'Allah Azza wa Jal, cette responsabilité qui leur a été confiée de diriger la Ummah, de diriger la population, de gérer les biens qu'Allah Azza wa Jal leur a accordés, de faire en sorte que les gens ne meurent pas de faim, de faire en sorte que les gens peuvent pratiquer leur dîn, peuvent pratiquer leur vie de ce dunya, peuvent fonder des familles, avoir des enfants, vivre heureux, dans un climat correct, dans un contexte correct, sans qu'il n'y ait d'abus, sans que le roi abuse de l'argent qu'Allah lui a confié, sans que les gens éprouvent des difficultés. Mais que malheureusement dans beaucoup de pays musulmans, dans beaucoup de pays où les musulmans dirigent, nous voyons injustice sur injustice. Un dirigeant qui tombe, on découvre dans ses salles de trésors des millions, des milliards d'euros, de dollars. Un dirigeant, on découvre, il avait des châteaux, il avait des palais, il avait telle chose, alors que la population crevait, excusez-moi l'expression, crevait de faim. Les gens n'avaient plus rien à manger et les moulouks, ces souverains, ils cumulaient, ils amassaient les biens. Alors sachez mes chers frères que on se pose des questions, comment il est musulman, il peut agir comme ça, Allah le garde au pouvoir d'un tel pays. On avait expliqué la dernière fois qu'Allah Ta'ala laisse cette personne dans son injustice, mais le jour de la résurrection, quand Allah Ta'ala punit le imam de le sens de dirigeant, quand Allah Ta'ala punit un dirigeant, un souverain, c'est une punition qui est exceptionnelle. La punition du gouverneur, du roi, du ministre, celui à qui Allah accorde le pouvoir et qui agit de manière injuste, sa punition elle est exemplaire. C'est un châtiment exemplaire le jour de la résurrection. Et chaque personne qui est opprimée pourront réclamer leurs droits auprès du tribunal d'Allah Azza wa Jal. Alors que s'ils avaient eu leurs droits de ce dunya, ils auraient eu une indemnité, une compensation de 1000 dirhams, 1000 dollars, 2000 euros ou je ne sais quoi. Mais ça les apporterait quoi? Dépenser, garder cet argent quelque temps et puis dépenser, tandis que quand on obtient dédommagement auprès du tribunal d'Allah, ça c'est intéressant. Quand c'est Allah qui nous dédommage, ça c'est très intéressant. Parce que là-haut c'est les bonnes actions. C'est pas le CAC 40, c'est pas le dollar, c'est pas le yen, c'est hasanat contre sayyiat. Alors quand on obtient des bonnes actions, ça nous propulse dans le paradis, ça c'est intéressant. Donc le jour de la résurrection, Allah Ta'ala fera justice avec tous ces dirigeants qui ont été injustes, qui ont pour beaucoup empêché les mu'mines de pratiquer leur dîme. Dans certains pays, on ne va pas citer, on ne va pas rentrer dans la politique, mais j'ai des gens qui ont habité là-bas et disent que si quelqu'un se réveillait pour la salatul fajr et qu'il allait à la masjid, la personne était fichée immédiatement et au bout de quelques temps, la personne était emprisonnée. Parce qu'on considérait que quelqu'un qui va à la salatul fajr, c'est un rigoriste, c'est un intégriste et bientôt un fanatique. Et puis un terroriste, bien sûr. Ah non, on ne dit pas les pays. Ah non, on ne peut pas dire. Ben regardez, il n'y a pas beaucoup de pays qui sont tombés récemment. Il n'y en a pas énormément. Et la personne, ça ce n'est pas de ce que Qila Waqal, ce n'est pas sur Twitter, ça c'est des gens qui ont vécu, qui ont vu, qui ont eu des collègues qui ont fait des études avec eux du même pays. Il dit qu'il suffisait de voir la lumière allumée de leur maison à l'heure de Fajr pour que les gens, ils fichaient les habitants de cette maison. Si on voyait la lumière allumée chez ces gens, pays musulmans 100%. Si on voyait la lumière chez eux, salatul fajr, on considérait ces gens-là comme des intégristes, et ils étaient fichés, et ils avaient des problèmes. Allahu musta'an. Donc, j'essaie de retourner un petit peu, retrouver le fil, qu'est-ce qu'on disait? Cette catégorie. Bon, ok, on revient au hadith de base. Donc, ces gens-là, oui, ces gens-là, hein, ils auront une punition exemplaire le jour de la résurrection. Maintenant, la deuxième catégorie de personnes que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam Ah oui, on disait que ces gens seront dédommagés auprès d'Allah. Et que s'ils avaient des dédommagements de ce dunya, ça se serait arrêté à là. Mais le jour de la résurrection, quelqu'un peut avoir des hasanat qui lui permettent d'accéder au paradis. Ou qu'il voit que l'oppresseur prend des péchés de son livret de compte, ben ça l'éloigne de l'enfer. Maintenant, concernant la deuxième catégorie de personnes que le prophète alayhi salatu wassalam a cité dans le hadith de Abu Huraira radiallahu anhu, Shabun nasha'a fi ta'atillah fi ibadatillah. C'est un jeune qui a grandi dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans une version de Salman al-Farisi radiallahu anhu, il dit que Rajulun afna shababahu wa nashatahu fi ibadatillah. Une personne qui a consacré sa force et qui a consacré sa jeunesse dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le cas du jeune dont on a donné l'exemple tout à l'heure, qui a grandi, qui a une bonne éducation, mais une vision correcte de la religion de l'islam, et qui est resté dans le droit chemin, qui s'est toujours éloigné des péchés jusqu'à sa mort. Et le prophète Uqba radiallahu anhu dit que le prophète a dit Inna rabbaka, qu'Allah ta'ala aime ce jeune homme qui ne tend pas vers ses la sabwata lahu, c'est-à-dire qui n'a pas de shahwa, qui n'a pas ses envies de faire des péchés. Et les ulama disent comment ça se fait? C'est quelqu'un qui a tellement eu l'habitude de rester éloigné du haram et de faire des bonnes actions que même s'il voit une jolie fille, une jolie femme passer, il n'éprouve pas l'envie de regarder. Il va dire que c'est pas possible, il y a un problème, l'affaire ne fonctionne pas de son corps. Non! C'est que tellement, c'est quelqu'un qui depuis des années, 10 ans, 15 ans, n'a jamais regardé une femme. Ce qui fait que même si une femme passe, cette personne est tellement éloignée de ses désirs de haram que cela ne lui fait strictement rien. On va répondre aux questions à la fin, Inch'Allah. Je me souviens de Cheikh Abou Bakr al-Jazairi, rahimahullah, qui est toujours vivant, bien sûr. Il nous avait dit une fois dans un de ses durous, un de ses cours à la Masjid Nabawi, vous allez dire que c'est pas possible, mais je vous dis que oui. Il a dit depuis combien d'années il n'a pas vu une femme. Il a dit que c'est à compter en dizaines d'années que Cher, son regard ne s'était pas posé sur une femme étrangère. Bien sûr, sa maman, son épouse, ses enfants, ses filles, tantes, nièces, bien sûr, ça c'est mahram, rien à dire. Mais que son regard ne s'est jamais posé sur une femme étrangère, ça se comptait en dizaines et de dizaines d'années. Ça, c'est des gens qui ont été choisis par Allah. Bien sûr, c'est des gens qui s'éloignent des endroits qui sont haram. C'est des gens qui ne vont jamais dans des endroits où il y a des femmes. Bon, c'est un autre niveau. Enfin, c'est clair que c'est à Madina aussi. D'accord? À notre niveau, à La Réunion, personne ne peut atteindre ça. Quand on a besoin d'acheter un kilo de tomate, ben, il faut bien mettre ça à bazar. Quand on a besoin d'acheter machin, même une tonne de 40 produits doit baisser de 60% ce soir. Après, on a fait quoi demain? Mais je peux pas aller dans une grande surface avec des œillets et avec des boules caisses dans les oreilles pour pas entendre la musique. C'est pas possible. Donc, nous vivons dans un contexte. Et Allah Ta'ala aura pitié de nous, qu'Allah nous pardonnera. Quand je passe mes coups sur le tapis en grande surface, je vais pas choisir où est-ce qu'il y a un monsieur parce que c'est très rare, etc., etc. Comme quoi de circonstances qui n'est pas pareil à l'île de la Réunion ou en métropole, bien sûr, avec ceux qui habitent à Makkah, à Madina. Mais sachez qu'il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui, Allah a choisi et Allah les protège. Et qui ne font pas de péché. Ils font pas de péché du tout. Incroyable ça. Imaginez ces gens-là quand ils arrivent auprès d'Allah. Subhanallah. C'est des gens qui vivent dans le but, ils ont compris qu'ils ont été créés pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. On avait cité l'exemple il y a quelque temps de la Ghazwat de Tabouk. Il y avait Ka'b ibn Malik quand il n'était pas parti à la bataille de Tabouk. Puis sa famille lui a dit, va dire au Prophète sallam que, essaie de dire un mensonge. Dis au Prophète sallam que tu n'es pas parti pour telle raison valable. Le Prophète sallam va te croire. Il était prêt à suivre les mauvais conseils de sa famille, de sa tribu. Mais arrivé auprès du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a mis la lumière dans son cœur et il a dit la vérité. Et les ulama, rahimahullah, les muhaddithis nous expliquent que quand quelqu'un est aimé par Allah, Allah fait en sorte que la personne, Allah décide de protéger la personne. Que quand il y a une source de péché, Allah l'éloigne de la source de péché. Allah agit de la sorte que la personne ne met jamais un pied dans le haram. C'est quelqu'un qui est protégé par Allah. Dans le cas de ce jeune homme qu'on a dit, la sabwata lahu, qui n'a pas de pulsion, qui n'a pas de passion, c'est pas quelqu'un qui est anormal. Non. C'est quelqu'un qui s'est tellement préservé, qui est resté tellement éloigné du péché, du haram, qui a tellement contrôlé son nafs, jamais regarder quelque chose de haram, jamais écouter ce qui est haram, jamais dire ce qui est haram, qu'à un moment donné, le péché ne l'intéresse pas. Les passions, les pulsions ne l'intéressent pas. Ça, c'est un degré exceptionnel. Et en commentaire, les ulama disent qu'il est suffisant, hein, quand on cite ce hadith, il dit que le simple fait de dire qu'Allah Ta'ala aime ce genre de jeunes personnes, c'est déjà une récompense pour ces gens-là. De savoir qu'Allah Ta'ala aime ce genre de personnes qui ont tellement fait un sacrifice, un effort sur eux, qu'ils ne ressentent plus le besoin de faire des péchés, ils n'ont même pas envie d'aller découvrir quel est le péché, quelles sont les choses qui sont haram. Notre prophète alayhi salatu wassalam dit d'un hadith, et ça j'aimerais que ce hadith là on le grave, je ne sais pas, on prend une carte micro SD ou alors on prend une clé USB, on met dessus et puis on trouve un endroit, on met dans le cerveau. Ça fait partie des hadiths que chaque musulman doit mémoriser. Ça fait partie des hadiths que chaque musulman doit mémoriser et le garder à l'esprit. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة عند ربي. Personne ne quittera la posture devant son Seigneur, c'est-à-dire le jour de la résurrection, pardon, chaque musulman sera appelé auprès du tribunal d'Allah. Personne ne quittera cette position debout devant Allah Azza wa Jal tant que hatta yus'alu an khams, tant que la personne n'aura pas répondu à 5 questions. Et parmi les 5 questions, on va citer le shahid, ce qui nous intéresse, wa an shababihi fi ma ablahu. Concernant sa jeunesse, comment est-ce qu'il l'a passé? Ça fait partie des 5 questions. Le prophète, c'est pas une métaphore, hein. Le prophète dit que les pieds ne quittent pas la posture. Personne ne bougera de cette posture, c'est-à-dire personne ne quittera le tribunal d'Allah Azza wa Jal sans avoir répondu à ces 5 questions. Et parmi ces questions, an shababihi fima ablahu, comment est-ce que tu as passé ta jeunesse? Même si quelqu'un meurt à 80 ans, 90 ans, 102 ans, la question lui sera posée. D'accord, pendant les 60 dernières années de sa vie, la personne était nickel, impeccable. Mais attends, de l'âge de 15 ans jusqu'à l'âge de 35 ans, à peu près, on va dire la jeunesse, jusqu'à 33 ans à peu près. De 15 ans à 33 ans, comment est-ce que tu as géré ton temps? Qu'est-ce que tu as fait de cette force qu'Allah t'a donnée? Qu'est-ce que tu as fait de toutes les facultés qu'Allah t'a données qui ont atteint le paroxysme le plus haut degré pendant la période de jeunesse? Qu'est-ce que tu as fait de ça? Est-ce que tu as passé cette jeunesse dans l'adoration à Allah, l'obéissance envers Allah Azza wa Jal, ou dans la désobéissance envers Allah, tu as suivi des passions, suivi des instincts, et que la personne attend l'âge de 40 ans, quand la barbe pousse pour blanchir, et là la personne dit maintenant je me retire. C'est-à-dire que la barbe blanchit, d'abord que la barbe pousse, ensuite elle blanchit, après on dit que maintenant c'est fini. Mais bien sûr mon frère, à 50 ans, qui t'accepte en boîte? Personne ne te prend plus en boîte. Ah, moi tu es de l'école 3e âge, mais il n'y a pas ma dire là-dedans. D'accord? C'est-à-dire, c'est pas que je puise mes réserves jusqu'à ce que j'ai tout goûté. Ma fine goûte toute, ma fine, toute le 20 ans, tu n'as pas fini gagner. Ça y est, c'est 88, 89, 92, 97, ah ça là, il reste 5 ans. Ça jusqu'à 2001, ça c'était record ça. Et puis, quand il finit fatigué, il trouve ce petit bibi pour marier, il finit avec son enfant, après il dit, ah c'était bye, regarde-moi, bon, t'as ce bien abonné, ben, c'était bien acheté plus gilette, il reste plus là-bas, maintenant il vient Moussali. Maintenant il vient Mazine, Massise. Peut-être qu'il est sincère, hein. Mais entre cette personne et celui qui depuis sa jeunesse s'est préservé, un jeune qui n'a jamais mis les pieds dans le cinéma, il existe ça? Un jeune qui n'a jamais mis les pieds dans une boîte de nuit, ça existe ça? Un jeune qui n'a jamais tenu un verre d'alcool et bu un verre, une gorgée d'alcool, ça existe ça? Inch'Allah. Un jeune qui n'a jamais pris une cigarette portée à sa bouche. Un jeune qui n'a jamais pris un Zamal ou un Rivotril ou l'Antane ou je ne sais pas quoi, fumé. Un jeune qui n'a jamais pris la main d'une fille. Un jeune ou une fille qui n'a jamais pris la main d'un garçon, main dans la main, touché quelqu'un qui lui était haram. Un jeune homme qui n'a jamais fait la bise à une jeune fille. C'est possible ça? Oui, c'est possible. Bien sûr que c'est possible. Mais ça, ce sont des élus. Ce sont des gens qui ont été choisis par Allah Azza wa Jal. Maintenant, si je suis encore jeune, si j'ai toujours 22, 25, 31, 32, ok, moi, il est à la limite, moi, d'accord. Si on est encore un peu jeune, c'est pas fini. On est encore dans l'âge où Allah Azza wa Jal nous accorde une attention particulière. On est dans l'âge où, il y a 1500 années de cela, il y avait des sahaba qui ont accompli des choses phénoménales, des choses terribles. Vous savez, quand on dit récit des compagnons, Hayatu Sahaba, la vie des Sahaba Ridwanullahi Ali Majma'in. Si, comment tu t'appelles toi?
Daniel.
Abu Bakr al-Siddiq. Décris-moi Abu Bakr al-Siddiq. Que nous d'autres têtes, que ça pense. Décris-moi la personne. Ou voilà comment?
Costaud, grand.
Comme où? Après, continue. Hein? Afro, non, physiquement. L'âge. Quand je dis quelqu'un qui a tout donné pour le dîn d'Allah, quelqu'un qui vivait pour Allah, quelqu'un qui, lorsqu'il faisait la salat, pleurait abondamment. Hein? Alors attends, voilà, c'est un peu vite, là, 25 ans? Non. Enfin, très souvent, quand on évoque Sahaba, les gens, ils se disent que le Sahaba, c'est un vieil homme, grande barbe blanche qui arrive jusqu'au genou, qui est toujours dans la masjid avec des vieux vêtements qui font le zikrullah du matin jusqu'au soir, qui jeûne tous les jours, sauf le jour du Eid et le jour de Bakri, de Eid al-Fitr et de l'Abha, qui passe toute leur nuit dans le tahajjud, le qiyam ou l'ayl. Mais ce qui revient, quand on parle de Umar, de Uthman, de Ali, de Zayd, de Oussama, etc., radiallahu anhu majma'in, pour nous, c'est des personnes âgées qui sont dans la religion. C'est comme notre tcha-tcha à droite, notre tcha-tcha, enfin, tcha-tcha, pas trop tcha-tcha, la bande la blanche est vite, notre ancien à gauche. On a l'impression que c'est des anciens. Mais si je vous dis, quel était l'âge Uthman ibn Affan, tout le monde connaît le sacrifice de Uthman pour le dîn. Combien d'argent il a donné pour les musulmans? Vous savez les histoires de Tabouk, les histoires du puits, etc. Vous savez quel âge il avait Umar quand il était à fond dans le dîn? Quel âge il avait? 20 ans. Uthman ibn Affan était âgé de 20 ans. Umar ibn al-Khattab avait 26 ans. Ali ibn Abi Talib avait 18 ans. Lorsqu'il a risqué sa vie pour prendre la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son lit, et que le prophète a pu sortir de sa maison, faire le hijra, et que les gens allaient tuer Ali en pensant que c'était Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils ont vu ça, Ali ibn Abi Talib se sont arrêtés. Il était prêt à donner sa vie pour le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il réussisse la hijra. Quel âge il avait Ali ibn Abi Talib? 18 ans. Suhaib al-Rumi. Suhaib, qui lorsqu'il a quitté Mecca pour aller à Medina, il avait un peu d'argent. Les Quraysh ont dit que toi, tu es venu à Mecca, tu n'avais rien. Tu as travaillé avec nous, tu as eu un peu d'argent, maintenant tu vas prendre tous tes biens, tu vas aller à Medina. Ah non, désolé Suhaib, passe pas comme ça avec nous là. Il a dit, laisse tout. Tu veux partir à Medina, faire le hijab avec le prophète sallam, avec les musulmans, donne-nous tout ce que tu as. Et après, on te laisse partir. Suhaib a tout donné. Il n'a pas gardé un dirham, un dinar. Il a tout donné. Le but, c'était quoi? Pour qu'il puisse aller à Medina pratiquer son din. Quel âge il avait, Suhaib? Il avait 19 ans. Zayd ibn Harith avait 20 ans. Abu Ubaid Amr ibn al-Jarrah avait 27 ans. Al-Arqam ibn Abil Arqam, qui a fondé la première madrasa de l'islam, qui était à Mecca. C'était un enfant, il avait 11 ans. 11 ans, mais avec un iman tellement fort qui le permet de prendre des risques, de donner sa maison, l'endroit où il habitait, pour que le prophète alayhi salatu wasalam vienne et enseigne aux sahaba qu'est-ce qu'Allah lui a révélé tous les jours pour apprendre le dîn. Donc, si quelqu'un est encore dans cette tranche d'âge, et comme je dis, c'est dans cette tranche d'âge que ces jeunes, que ces sahaba, ils ont fait des choses exceptionnelles, extraordinaires. Si quelqu'un est encore dans cette tranche d'âge, il n'est pas trop tard. Si on a déjà 60 ans, 70 ans, on va demander pardon à Allah pour les erreurs qu'on a fait dans la jeunesse. Si on a fait dans la jeunesse des erreurs, bien sûr. On va demander tawba et Allah Ta'ala est généreux. Mais si on a la chance d'être dans cette tranche d'âge encore, on a encore 22, 23, 25 ans, 30 ans, il est encore temps de redresser la barre. Il est encore temps de se dire que jusqu'à quel âge je vais désobéir à Allah. Mais je suis en train de brader les plus belles années de ma vie. Quand Allah va me demander qu'est-ce que tu as fait de ta jeunesse, comme on vient de citer le hadith, et que je vais me rendre compte que jusqu'à mon mariage, je me suis marié à 25 ans, et jusque-là, tous les samedis soirs, j'étais en boîte, j'étais toujours avec des filles, j'étais toujours avec telle chose, je faisais toujours le haram, je n'obéissais pas à mes parents, je faisais tel péché, telle erreur. Quelle réponse je vais donner à Allah subhanahu wa ta'ala?
Je n'aurais rien d'autre à dire que j'ai passé ma jeunesse dans le hawa, dans les shahawat, dans les passions, dans les pulsions, dans la recherche de plaisir immédiat, de renouvellement de plaisir immédiat. Alors si quelqu'un, on le répète encore de cette tranche d'âge, c'est encore temps de rectifier le tir afin que lorsqu'Allah me pose cette question, c'est avec contentement, joie et à la limite fierté qu'on pourra dire à Allah que ma jeunesse, oh Allah, je l'ai consacrée à toi. J'ai passé ma jeunesse dans ton obéissance, j'ai fait mon maximum, je suis resté le mieux possible, le plus possible éloigné de ce que tu as rendu, ce que tu as décrété comme étant illicite. Ça c'est l'honneur, ça c'est le izza, ça c'est un jeune qui a réussi, qui devant le tribunal d'Allah, il se voit gratifié, il se voit récompensé, il se voit considéré comme ceux qui ont grandi dans l'adoration d'Allah et qui sont sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, le joie de la résurrection. Donc personne ne quittera le tribunal d'Allah sans répondre à cette question. Wa an shababihi fima abla, sa jeunesse, comment est-ce qu'il a passé sa jeunesse. Je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir, on a 36 minutes. On citerait juste l'exemple d'Ashabul Kahf. Tout le monde lit sur les Kahf de Jum'a, tout le monde lit. Pourquoi est-ce qu'on appelle sur le kahaf kahaf? Ça veut dire quoi kahaf? Hafizab, kahaf, trois lettres. Issa, kahaf.
Caverne.
La caverne, la grotte. C'est en rapport avec les gens qui sont restés dans la grotte. C'était qui ces gens? Des tchatchas? Avec beaucoup de muhabba, on dit tchatchas, hein? C'est pas des tchatchas hein, péjoratifs, non. Non, c'est des jeunes. Des jeunes qui se sont éloignés de leur village parce que la population adorait autre qu'Allah. La population était versée dans le péché, dans la désobéissance. Et que eux, ils voulaient adorer Allah. Et ils ne pouvaient pas le faire avec ces gens. Donc ils ont quitté cette population. Ils se sont dit qu'on va aller ailleurs pour pratiquer notre dîn. Et là, ils se sont arrêtés de cette grotte. Là, ils se sont endormis. Et Allah Ta'ala a fait le miracle que nous connaissons dans Sourate Al-Kahf. Mais ces gens-là, c'était des shabab. C'était des jeunes. Nahnu naqussu alayka nabahum bil haqq. Innahum fitya. Fitya, ce sont des jeunes. Amanu bi rabbihim. Wazidnahum huda. Inch'Allah, la semaine prochaine, nous allons voir. Là, on a cité Abu Bakr al-Siddiq. Hein, vous aviez dit 25 ans. Abu Bakr al-Siddiq, hein, il avait 3 ans de moins que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a reçu la prophétie. À quel âge le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la prophétie? À quel âge? Hein? À 40 ans. Donc Abu Bakr avait 3 ans de moins. Il avait 37 ans quand il a commencé à aider notre prophète alayhi salatu wasalam. On a dit Umar ibn al-Khattab avait 26 ans, Ali avait 18 ans, Al-Arqam bin Abi al-Arqam avait 11 ans, et ainsi de suite. Alors Inch'Allah, ce qu'on vous propose, parce qu'il y a deux façons d'aborder le sujet, soit on explique les vertus des bonnes actions quand on est jeune, et puis on zappe, on passe à la troisième catégorie de personnes qui sera sous le trône d'Allah, le jour de la résurrection. Mais moi j'aimerais approfondir un peu le sujet, parce que c'est un sujet qui est important de nos jours, parce qu'on n'a jamais eu une génération qui malheureusement connaît autant de dépravation qu'en 2012. D'accord? Donc on a besoin de parler de ces jeunes qui ont passé le jeûne de l'adoration d'Allah Azza wa Jal, et par excellence les sahaba. Voir quelques récits de la vie de Ali ibn Abi Talib, quelques récits de Mu'adh ibn Jabal radiallahu ta'ala anhu, quelques récits de Usama ibn Zayd radiallahu anhu, de Mus'ab ibn Umair, de Zayd ibn Thabit, de Al-Hassan ou Al-Hussein, et quelques autres sahaba qui ont fait des choses exceptionnelles de leur jeunesse, pour qu'on comprenne que ce n'est pas impossible que de rester dans l'obéissance d'Allah quand on est jeune. Et avec l'espoir qu'Allah Ta'ala illumine nos cœurs et permet, si on est encore jeune, de redresser la barre et de revenir vers Allah, de ressentir le besoin d'avoir le contentement d'Allah à chaque moment de sa vie, afin que lorsque nous rencontrons Allah, le jour de la résurrection, le jour des comptes, Allah nous demandera qu'est-ce que tu as fait de ta jeunesse. On pourra dire que ma jeunesse, oh Allah, c'était pour toi. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya, ma vie. Ça c'est la vie du musulman. Le musulman appartient à Allah. Je vis pour Allah, je meurs pour Allah. Toute mon existence c'est uniquement pour Allah. Et ce jeune qui a consacré sa jeunesse à l'adoration d'Allah, c'est un jeune qui a donné ce qu'il a de plus cher, ce qu'il aime le plus, il a donné à Allah, c'est-à-dire sa jeunesse. Comment est-ce qu'Allah Ta'ala ne l'acceptera pas quand Allah voit que c'est quelqu'un qui a donné les plus belles années de sa vie pour son Seigneur, pour son Créateur. Allahumma ja'alna minhum. Qu'Allah Ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre, de mettre en pratique et de, de propager à nos mères et à nos sœurs. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khair.